le micro du soir, Aïch la RFI.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Franco Aloisio, président de l'association Parada, qui vient en aide aux jeunes démunis en les initiant notamment au jeu du cirque. J'en profite pour saluer le directeur de Parada avec qui Franco Aloisio travaille, Younouts Yuguleanu, que nous avons reçu ici même il y a quelques mois. Quand nous vous avions interrogé une première fois, Franco Aloisio, il y a environ 4 ans, nous avions alors surtout parlé de Parada. Ce soir, on va discuter d'autre chose, des nouvelles activités que vous avez développées en plein centre de la Roumanie, dans le village de Valkid. Franco Aloisio, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être à nouveau au micro du soir. Ça faisait un certain temps qu'on ne vous avait pas interviewé. Et depuis, pas mal de choses se sont passées pour vous. J'aimerais que vous nous racontiez déjà un petit peu l'histoire de votre émigration à Valkid, qui est un village qui est en plein cœur du pays.
Ah oui, effectivement, on est vraiment dans le cœur de la Transylvanie. Et c'était en migration, je dirais, par hasard. C'était pas en stratégie. Je suis en Roumanie depuis 25 ans. C'était le 2006. À cet homme-là, moi, j'avais deux chiennes, Mala et Martor. Et je voulais faire une semaine à la montagne avec mes chiennes pour se promener un peu dans le bois, pour s'amuser un peu, pour les faire amuser un peu. Et à cet homme-là, c'était le 2006. Il n'y avait pas vraiment des gros possibilités, dans le sens qu'il n'y avait pas des pensions, des guest house ou des hôtels qui te prenaient avec les chiennes. Et alors un collègue de Parada, l'ex-comptable de la fondation, qui m'a dit, moi j'ai des amis hollandais qui habitent dans un petit village en Transylvanie, je vais leur téléphoner, s'ils sont d'accord, tu vas te mettre d'accord et tu peux rester chez eux. Et c'est passé comme ça.
Et donc ils étaient à Valkid,
c'est hollandais. Oui, c'était des amis hollandais. Après, ils sont devenus des amis qui étaient des anthropologues qui avaient fait une thèse de la mémoire pour l'université d'Amsterdam, et c'était sur la migration des Saxons de Transylvanie. Ils sont tombés sur ces petits villages, dont Valkid. Et ils m'ont hébergé une semaine. Je suis resté là une semaine. Et un soir, tant qu'avec les Hollandais, généralement, on boit beaucoup, on était complètement bourrés. Ça, c'est la réalité. C'est passé, les choses sont passées comme ça. Et un soir, un peu bourré, j'ai demandé, mais est-ce qu'il y a personne qui vende la maison ici, dans les villages? Et les jours après, ils m'ont amené dans...
Parce que vous avez eu un coup de cœur dès le départ.
Moi, j'aime bien. C'est une très belle région. C'est vraiment cette partie de la Transylvanie, c'est vraiment belle. Mm-hmm. C'est vraiment encore authentique, sauvage, en nature exceptionnelle. Et comme ça, les jours après, ils m'ont amené à la maison d'une vieille femme qui voulait partir pour l'Allemagne, parce que toute sa famille était déjà en Allemagne. On a négocié les prix et j'ai acheté la maison.
D'accord.
C'était pas vraiment une stratégie. Je suis tombé là par hasard.
D'accord. Et vous avez acheté cette maison déjà dans l'idée de éventuellement monter une maison d'hôte. C'était
Non, c'était pas ça vraiment l'objectif. À ce moment-là, c'est pour des questions personnelles. J'avais vendu mon appartement à Milan, j'avais acheté la maison à Bucarest, j'avais rénové, j'avais de l'argent qui était resté là. Les prix, c'était un très bon prix, et j'ai dit, bon, pourquoi pas ne pas acheter une petite maison à Saxonie, en Transylvanie. Une des raisons, c'était aussi que, mais à cet temps-là, si vous souvenez, on parlait déjà de l'autoroute Transylvanie. Et alors, il y avait le premier ministre de ce temple-là qui disait que dans quelques années, on va faire Bucarest-Budapest en autoroute. Et j'ai dit, bon, si c'est en autoroute, c'est 310 kilomètres, dans 3 heures, tu es là. Le vendredi soir, tu pars avec les chiens, tu fais les week-ends et tu rentres. On est dans 2024, encore il n'y a pas même les projets de l'autoroute, mais quand même,
je suis resté avec la maison. Combien de temps vous mettez en général pour faire Bucarest-Valkid?
Pour faire Bucarest-Valkid, ça dépend de comment ça marche dans Valea Prahove, s'il n'y a pas très aggloméré ou pas, mais quand même, tu peux arriver à partir de 4h, 4h15 minutes jusqu'à l'infini. Ça dépend de la Valea Prahove.
Alors après, donc vous achetez cette maison et puis vous y vivez de temps en temps et puis rapidement vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire et notamment monter une maison d'hôte.
Oui, c'était les premières années, on l'a utilisé plutôt comme maison de vacances. On est là 2-3 semaines par an, parce que quand même la maison c'était complètement à rénover. Et c'était assez loin de Bucarest, parce que quand même, je répète, il faut quand même 4 heures, entre 4 heures et demie et 6 heures, 7 heures, ça dépend du trafic de la vallée à Prachovie. Après, on avait commencé dans les 2018-2019, on s'est dit, bon, la tenir comme ça, il n'y a pas de sens. Ou alors rénover un peu, ou sinon, on n'a rien à faire avec ça. On avait commencé la rénovation. Après, il y a eu un petit virus, le Covid, qui nous a changé complètement la perspective. Dans les moments qui l'ont donné le lockdown à Bucarest, c'était le mars 2020, on a décidé avec ma famille d'aller faire le lockdown à Valkid. On est resté là 6 mois. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé dans les constructions. Comme ça, j'ai pas eu besoin de grosses aides pour rénover toute la maison, avec les gens du village, évidemment. Et alors, on a terminé tous les travaux pendant la période de Covid. Et tant qu'on avait des chambres en plus, on s'est dit, bon, on va demander l'autorisation au ministère du tourisme. Et on va essayer de les louer, quoi. Se mettre sur Booking, Airbnb, etc. Et si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, quand même, les chambres, elles sont là. Et je dois dire que dans la période de Covid, nous, on a ouvert, moi, j'ai ouvert les 20 août 2020, en plein pandémie.
Ah, déjà, vous avez ouvert la maison d'hôte?
Oui, parce que les autorisations arrivent assez vite du D'accord. ministère. Au début, ils te donnent une autorisation provisoire qui est valable 6 mois. Et après, dans 6 mois, elle vient faire une inspection à vérifier qui.
Ah oui, donc c'est quelque chose qu'on peut obtenir
oui,
assez
oui,
rapidement.
Oui, on peut obtenir assez rapidement.
D'accord.
Ouais. Et on a ouvert pendant la période Covid, lockdown, et dès les premières 2 années, on a travaillé vraiment très 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 bien. Parce que c'était dans un petit village isolé, dans les forêts, une structure indépendante, avec un gros jardin, avec beaucoup d'espace, très intime.
Qu'est-ce qui vous a amené pas mal de clients Booking
Oui, généralement, oui, c'est les gros plateformes, surtout au début.
Ouais,
au début.
Ouais.
Nous, moi, je suis une petite structure, mais non, on a encore 2 chambres, mais avec tout la chose plus qui aime le plus les jeunes, c'est le fait d'être vraiment dans la nature et dans un village, effectivement, un village rural, qui c'est pas un village très développé, qui est en train, dans ce moment-là, de changer. Et ce qui t'amène les gens sur ce type, évidemment, c'est un tourisme de niche. C'est un tourisme des gens qui aiment la nature, qui aiment la tranquillité, qui aiment les traditions. C'est pas les touristes de masse. Et on est sur des grosses plateformes comme Booking, Airbnb, plutôt que des plateformes locales, Travelocal, Travel Minute, etc. Mais je dois reconnaître que cette première année, c'est Booking qui fait la partie la plus importante.
Et vous avez l'habitude d'obtenir des financements européens à travers Parada notamment, et vous avez également demandé des financements pour développer des projets à Valkid. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Oui, là aussi c'était dans les temps, je me suis rendu compte que ce type de tourisme peuvent être c'est un plan de développement en Roumanie. La Transylvanie, c'est une très belle région, encore authentique, qui c'est très difficile à trouver dans l'Europe de l'Ouest, en Italie, par exemple, d'où je viens. Et on pourrait dire que la Transylvanie pourrait être un peu la Toscane de l'Europe de l'Est. Et alors, au début, je répète, avec 2 chambres, tu couvres que les frais pour toute l'année. C'est pas vraiment un business. Ce qui te reste à la fin de la saison, c'est vraiment pas significatif du point de vue financier. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un potentiel. Alors on a commencé à acheter des autres petites maisons à côté. pour essayer de voir si c'est possible de développer cette partie touristique comme aussi comme stratégie et perspective pour changer, pour s'écler un plan B dans la vie, hein, à un certain moment, après être grandi dans des grandes métropoles. Peut-être qu'à un certain moment, je vais dire, bon, j'aimerais bien me retirer quelques mois par an dans une situation un peu plus tranquille. Alors, j'ai commencé à regarder un peu aussi des différentes opportunités. Et effectivement, dans les dernières années, il y a eu pas mal de possibilités de financement au niveau des fonds européens. Nettement, les fonds locaux qui sont gérés par les GAL, les groupes d'action locale, qui c'est des financements AFIR, Agence pour le financement sur les investissements ruraux. Et j'ai réussi à gagner un projet pour des activités dans les zones rurales, mais non agricoles. Un projet non agricole dans des régions rurales. Mm-hmm. Il s'agit d'un financement de presque 40 000 euros à fonds perdu. Donc, après, tu dois mettre les 10% des cofinancements. Mais c'est intéressant parce qu'il me permet d'ouvrir une nouvelle maison qui va être ouverte, qu'on va ouvrir les prochaines années, le 1er mai, qui va fonctionner comme agritourisme. Et avec
là, avec combien de
là aussi,
la capacité, combien de chambres là,
c'est toujours quand même une petite structure avec une capacité d'accueil de 4 ou 6 personnes. Mm-hmm. Mais ça, c'est un peu la stratégie qu'on a commencé à développer. L'idée, ce n'est pas créer des grosses structures où il y a dizaines de personnes, mais créer des petites structures diluées un peu. Un peu l'idée, c'est de l'auberge diffuse dans les villages. Hein. Tant que l'agent arrive, il peut effectivement expérimenter la vie du village sans se retrouver avec 50 autres touristes. Créer ce type de dynamique qui aide un peu aussi à mieux comprendre le contexte culturel local et aussi à aider le développement du village.
Et comment vous avez fait pour obtenir, enfin, quand je disais que vous étiez habitué aux fonds européens, est-ce que vous avez monté les dossiers tout seul, vous avez demandé à un cabinet spécialisé pour faire ça, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu le problème souvent, on est un petit peu effrayé par l'ampleur administrative de la tâche, mais vous, comment ça s'est passé?
Oui, non, on doit reconnaître si tu as besoin de l'aide d'une agence de consultance.
Donc c'est ce que vous avez fait.
Ouais. Oui, c'est ce qu'on avait fait. Dans le sens que les opportunités qu'ils te donnent sont assez généreuses, mais la bureaucratie, comment on dit, tout la monter les dossiers, toute la partie d'administratif, c'est très très lourd. Je pense c'est presque impossible pour une personne privée de le faire. Mmh. Tu as besoin d'agences, de consultants qui derrière
qui prennent après un pourcentage sur le montant.
Qui prennent après un pourcentage. Généralement, le pourcentage au moins sur cette ligne dont j'ai gagné le projet, c'était les 5%.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est pas vraiment. Et ça, c'est un des problèmes hein, par exemple, pour les projets AFIR de ce type, dans le sens que les 5% d'un projet de 40 000 euros, c'est-à-dire c'est 2 000. Mais vraiment, derrière, il y a un travail qui est incroyable.
Ouais.
Et c'est très difficile, et ça, c'est un des problèmes, par exemple, pour ce type de lignes de financement de l'Union européenne. Les fonds, l'absorption est très réduite. Mais parce qu'il y a aussi cette gap-là, c'est difficile de trouver des agences de consultance qui se mettent dans cette dynamique, dans ce processus, pour 2000 euros qui, effectivement, c'est pas vraiment un
parce que un ce pourcentage de 5%, c'est un pourcentage c'est fixe.
Le pourcentage fixe, oui.
Ah,
oui,
d'accord.
Mais derrière, c'est vraiment, il y a un travail qui c'est incroyable. Même si c'est des petits financements, les procédures, c'est comme les grands financements. Et alors, c'est vraiment un travail de fou, quoi, si je peux le dire.
Donc, en quelque part, c'est grâce à vos relations et au fait que vous êtes présidente de Parada qui vous a aidé, plutôt que la présidence de
Parada, non, parce que moi, j'ai essayé de tenir quand même les deux choses complètement différentes. Mm-hmm. C'est un bois de consultants, si je peux dire le nom, je ne sais pas, Space Invest, qui c'est d'un ami que je connais depuis longtemps, avec qui j'avais collaboré sur d'autres projets. Mais effectivement, si tu n'as pas effectivement ce type de rapport, généralement, qu'est-ce qu'ils font les autres? Si j'ai d'autres amis qui ont gagné des projets, À côté du 5%, ils ont dû mettre de l'argent en plus. D'accord. Pour l'agence de consultance.
Oui, ouais. Voilà.
Parce que je répète, les 5% des 40 000, c'est vraiment irrisoire pour le travail qu'il y a derrière un dossier de financement.
D'accord. Alors, à Valkyd, aujourd'hui, et quelle est votre relation avec la communauté, le village? Dans pas mal de ces villages saxons, la communauté rome est importante, hein, est assez présente. Hein, j'ai pu m'en rendre compte à Valkyd même personnellement. Et, vous avez l'habitude d'interagir avec cette communauté. Vous continuez à le faire à Valkyd. Dans un premier temps, dites-nous quelle est leur situation à ces Roms, à Valkyd, dans votre village. Comment leur situation a évolué ou pas ces dernières années?
Alors, parler de la communauté rome dans cette région de la Roumanie, c'est-à-dire la Sarasachilor, la région saxonne, veut dire un peu parler de toute l'histoire de cette région à partir de la chute du régime. C'était une zone qui était prépondérante saxonne. Après la chute du régime, entre les 89 et les 92, il y a eu vraiment les gros exodes des Saxons. À Valkyd, dans 3 ans, tous les Saxons du village sont partis. Ils l'ont abandonné tous. Ils ont abandonné les maisons, la terre, tout ce qu'ils avaient, ils l'ont abandonné et sont partis. Alors, c'est une région qui, à un certain moment, s'est retrouvé avec un vide du point de vue social. Il y avait une communauté qui était la majorité, qui est partie, qui a abandonné tous, et il y avait une communauté rome qui était là, en partie, était déjà là, parce qu'il a, même pendant la période communiste, et même avant, il travaillait dans l'agriculture pour les Saxons, etc. Dès que les Saxons sont partis, il y a eu beaucoup de maisons qui sont restées vides, il y a eu beaucoup de terres qui ont été abandonnées, et il y avait une communauté rome locale qui était en train de se développer. Maintenant, les taux de croissance dans les communautés roms est beaucoup plus haut que dans les communautés roumaines. Ça, on le sait, c'est un fait reconnu par tout le monde. Et la communauté roumaine s'était trouvée aussi dans ces moments-là un peu désorientée, dans le sens qui, bon, c'était un changement vraiment radical dans un temps très 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 court. Ça qui a fait aussi que plus ou moins toute la région saxonne aujourd'hui, c'est une région prépondérante à Rome. À Valkyd, par exemple, sur un nombre de 1100 habitants, presque les 80% sont d'ethnie rome. En bonne partie, c'est des gens absolument intégrés, c'est des gens qui vivent là depuis. Évidemment, c'est qui. Les nouvelles opportunités font aussi qu'il y a des gens qui arrivent aussi des autres villages. Mais c'est des gens qui, dans ces moments, ils se trouvent aussi, comme toute la région, dans une situation de transition. Et c'est quand on parle des Roms, des Transylvanie, généralement, moi quand je parle de Valkyd, c'est pas les Roms traditionnels. Ça, on les retrouve dans des autres villages à côté. Par exemple, à Bratei, vers Médias, plutôt que vers la partie de Turgumurech, Sigishoara, etc. Mais les Roms de cette région-là, c'est des gens un peu, eux aussi, dans une situation de transition. Ils ne sont pas traditionnels, ils ne sont pas nouveaux, ils sont dans une situation...
Ils sont arrivés éventuellement d'autres grandes villes?
Ils sont arrivés éventuellement d'autres grandes villes ou des villages à côté. Et là où il y a eu des développements, évidemment, il y a aussi des opportunités. Alors, fait que les gens à la recherche d'un travail plutôt que d'une possibilité de subsistance, ils arrivent. Mais aujourd'hui, les rapports avec la communauté rom, je me dis que c'est tout à fait normal.
Avec eux.
Oui, c'est tout à fait normal. Et c'est des gens, évidemment, comme dans toutes les communautés, il y a des gens d'un certain type plutôt que d'un autre, mais généralement c'est des gens très très...
Et alors ils sont d'une certaine façon appropriés, les maisons saxonnes, comment ça se passe?
Oui, absolument, les villages, c'est un petit village, il n'y a que deux routes, la strada principale.
Ils vivent dans des maisons saxonnes la plupart
En partie vivent dans des maisons saxonnes, en autre partie vivent dans des petits baraques, petites choses qu'ils ont construites sur les collines. Généralement, c'est ça. Les gens qui sont du village, les Roms qui sont du village, qui habitent là depuis des générations, ils habitent dans les vieux maisons saxonnes. Mais par exemple, le village est très, très mixte. Il y a pas mal de couples mixtes roumaines-roms, parce que c'est des gens qui sont grandis ensemble. Ils sont là depuis 50 ans. Après, il y a les nouveaux arrivés. Les nouveaux, ceux qui sont arrivés par les dernières 10 ans.
Est-ce qu'il y a des Saxons
qui sont un peu au dehors du village, du centre du village.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des Saxons qui reviennent? En tout cas, si ce n'est pas à Valkyd, est-ce que vous avez entendu dans la région des de retours de Saxons?
Ça commence à être assez répandu, ce phénomène. C'est un phénomène assez nouveau. Alors, il y a des villages où il y a, à Valkyd, il n'y a plus de Saxons. La seule, c'est une fille qui est la nièce d'une vieille femme saxonne. Mais il y a des villages, par exemple, à côté, il y a le village de Malenkraft, où il y a une communauté de 150 Saxons qui encore habitent là, qui ne l'ont jamais abandonné, qui le dimanche, ils vont à l'église, ils font tous les rites en saxon, ils vont avec les vêtements traditionnels, etc. Mais généralement, dans les villages, il n'y a plus de Saxons qui habitent, sinon des petits nombres. Dans les dernières années, pour différentes raisons, il y a eu un retour d'intérêt des Saxons vers cette région-là. En partie d'entre eux, ils ont vendu les maisons pendant les temps. Quelqu'un, il a encore maintenu les maisons, alors ils reviennent pour reprendre un peu
pour récupérer
les propriétés,
leur
pour bien, rénover un peu, etc. Ouais. Depuis des années, ils ont commencé à faire les rencontres des Saxons des différents villages. Alors cette année, il y a eu les gros rencontres des Saxons à Sibiu, dont il y avait plus de 50 000 personnes, même le président de la République, Ioannis, a participé. L'année dernière, ils ont fait la rencontre des Saxons des Valkyd. Et chacun, il se retrouve chaque 5 ans pour rénover un peu les traditions. Toi, c'est des gens qui sont grandis dans les mêmes villages, ils se connaissent tout le monde, l'une avec l'autre. Et dès qu'ils reviennent, par exemple, ils vont nettoyer, rénover les cimetières, essayer de rénover un peu les maisons. Maintenant, par exemple, les Saxons du village sont en train de travailler sur un livre pour reconstruire la vieille structure du village. Moi, je l'ai aidé aussi à faire les photos sur les maisons.
Vous parlez de Valkyd.
On parlait de Valkyd,
Très bien.
Parce qu'elles vont reconstruire un peu la mémoire du village. Et même avec l'histoire, chaque famille où habitait, quelles étaient les traditions, etc. Même parce que ce qu'ils me disaient, les Saxons, parce que quand ils viennent à Valkyd, généralement, ils restent chez moi. Je suis le seul guest house du village.
D'accord.
Et ils me disaient qu'ils sont d'un côté, ils sont un peu préoccupés, dans le sens qu'ils disent... Quand ils ont quitté la Roumanie, ils pensaient d'arriver en Allemagne et d'être accueillis comme des frères. En effet, ils se sont rendus compte, dès qu'ils sont arrivés en Allemagne, ils étaient traités comme des asylanten, comme un corps étranger.
C'était des
réfugiés. Et alors, quand ils revenaient ici, ils te disaient, bon, ici, nous, on était les Saxons, et là, on était les étrangers, les Roumains. Tu vois, une perte d'identité pour eux aussi. Et c'est pour ça, peut-être aussi, un essai de récupérer la tradition et leur rapport avec la Transylvanie. Mais de l'autre côté, ils sont assez préoccupés parce qu'ils disent, et effectivement, je l'ai vérifié à Valkyd l'année dernière, dès qu'il y a eu les rencontres des Saxons du village, étaient que des gens du Moyen-Âge et des personnes âgées. Très peu de jeunes, parce qu'elle me disait que leurs jeunes, leurs filles, qui sont nées et grandies en Allemagne...
Ils sont bien intégrés là-bas.
Ils sont bien intégrés là-bas, et pour eux, la Transylvanie, oui, c'est les racontes de la grand-mère, mais c'est pas vraiment un lieu qu'ils sentent comme leur, quoi.
Oui.
Mais je pense, j'ai vu aussi qu'il y a, dans les dernières années, beaucoup de Saxons qui ont compris que quand même cette partie de la Transylvanie, ça commence à avoir une perspective du point de vue touristique et de développement très intéressante. C'est qui nous la région des collines et les Transylvanie, pour être plus clair. Et alors, il y a des gens qui essayent de renouveler les vieux maisons des familles pour créer des guest houses plutôt que créer des petits business. Ils ont créé pas mal de rapports commerciaux entre cette région et l'Allemagne, nettement pour les travaux saisonniers des gens. Généralement, ceux qui gèrent et qui organisent les travaux saisonniers, parce que toute la région vive grâce aux travaux saisonniers dans l'agriculture, principalement en Allemagne, mais pas mal aussi en Hongrie, en Italie, mais principalement c'est l'Allemagne. Et généralement, ceux qui organisent tout ce type d'intermédiation, c'est des Saxons de Transylvanie.
D'accord. Et il y a cette perspective que des Saxons qui proviennent de ces familles-là, mais les Allemands de façon plus générale, qui sont attirés par des expériences bucoliques comme beaucoup d'autres Européens de l'Ouest. Mais le fait qu'il y ait cette histoire saxonne, on peut penser qu'il y a des perspectives intéressantes pour vous et pour le village.
Absolument, oui, absolument, oui. Il faut penser que c'est une région où on a presque plus de 100 églises fortifiées. Dans chaque petit village, il y a une église médiévale fortifiée. C'est un patrimoine incroyable du point de vue culturel. Je ne suis pas un expert du tourisme, mais je ne pense pas qu'on peut trouver en Europe une région assez homogène dans un espace géographique assez
réduit. Ouais.
Réduit. Et comme c'est des églises qui sont, chaque petite église, chaque petit village a son église fortifiée. Malheureusement, la grande partie de cette église ne sont pas du tout exploitées, mais aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui commence à être utilisé, par exemple à Viscri, qui c'est l'exemple le plus connu, plutôt que Saskid, plutôt que Almavi, plutôt que Birtan, etc. Mais chaque petit village, aussi à Valkyde, on a une église fortifiée qui date de la fin du 1300, qui c'est vraiment une coquette, quoi. C'est jamais utilisé. Ça, c'est le gros problème. Mais si on avait effectivement la capacité de rendre tout ce patrimoine architecturel comme un patrimoine qui peut être aussi mis à la disposition des communautés pour créer, je ne sais pas, des festivals, plutôt, tu peux faire qu'est-ce que tu veux là. Oui. Plus de 100 églises médiévales qui sont non utilisées. Tu as une nature qui est encore vraiment préservée et sauvage. Après Valkyde, après mon petit village, il y a une seule route. Après, tu arrives au village de Kopchamare, qui c'est un petit village, encore plus petit que Valkyde. Et de là, tu peux aller ou à Birtan, qui c'est patrimoine UNESCO, très connu en Roumanie. Mais sinon, il y a la valle à Valkyde, lui qui continue pour presque 20 km. Et après Kopchamare, il n'y a rien que des forêts, que la nature. Là où tu trouves les ours, tu trouves les animaux. Toi. C'est un patrimoine du point de vue naturel qui c'est incroyable. Un patrimoine du point de vue culturel, parce que quand même, c'est une histoire. Par exemple, à côté des Valles, qui donne le village de la ville, parce que Dumbraveni, c'est Orache, c'est l'Orache Dumbraveni, qui c'était un vieux enclave arménienne. Toute cette région-là, c'était toujours un melting point. Si tu vas à un melting point de culture, toute cette région était toujours une région de transition. En allant vers Sighisoara, qui c'est à 16 km de Valkyde, ça commence toute la zone hongroise. Et toi, il y a vraiment un patrimoine, une mixité culturelle, même les Roms. Avant d'arriver à Mediasch, tu as les Roms Calderari qui à Bratei, ça mérite une visite à Bratei que pour voir les toits qu'ils ont fait à leur maison. C'est des palais vraiment en style indien avec des toits qui sont incroyables. C'est des masterpieces, quoi. Un peu kitsch, mais ce sont des masterpieces. Alors, c'est une région qui, effectivement, a toutes les possibilités, toutes les chances d'avoir un futur. Il faut la préserver, évidemment. Il faut la protéger, surtout du point de vue naturel.
Ouais, vous êtes à 16 km de Sighisoara, qui est déjà, évidemment...
Birtan aussi, on est à 6 km de Birtan, qui est patrimoine UNESCO.
Vous sentez qu'il y a de la part des autorités, une envie ou plutôt une prise de conscience que le tourisme qui doit se développer doit être un tourisme de qualité comme vous le faites à votre niveau à Valkyde et pas avec des grands complexes touristiques. Ça, des fois, vous en avez un petit peu peur que de grands investissements arrivent et gâchent le caractère traditionnel de cette région.
Et là, c'est serait en discussion assez longue à faire par rapport à les gros groupes touristiques, etc. Mais quand même, pour revenir à... Alors, du point de vue des institutions, je dois dire que dans les dernières années, les institutions ont commencé à se rendre compte du potentiel de la région. Et d'un côté institutionnel. De l'autre côté, même aussi la société civile. Nous, moi, par exemple, je suis membre du réseau Collines de Transylvanie, Transylvania Highland, qui est un réseau d'agritourisme, et pas seulement sur la Coyance, font partie aussi des guides touristiques, points gastronomiques locaux, etc. Quand même, c'est un network qui essaye de promouvoir, de soutenir et développer ce type de tourisme. C'est un brand très important, Collines de Transylvanie, qui font un travail incroyable aussi pour tout ce qui concerne la préservation de la nature, de la culture. Moi, j'ai de dire qu'ils m'ont aidé vraiment beaucoup, moi et comme les autres. Et par rapport aux gros groupes, aux touristes de masse, ce type de gens, ils ne sont pas vraiment très intéressés à ce type de tourisme. Parce que, par exemple, les gros problèmes qu'il y a à Viscri, plutôt qu'à Séguichoara, plutôt qu'à Biertana, tous ces endroits très connus, c'est que les touristes de masse font que les grosses agences, ils arrivent avec l'autobus, avec les bus. À Biertan, par exemple, à Séguichoara, il y a des gens qui arrivent, visitent l'église, restent là 2 heures, mais après ils vont loger dans des gros hôtels à Brasov ou à côté. D'accord. Il y a peu de gens restent là. Mm-hmm. Par rapport aux autorités publiques, je dois dire aussi, par exemple, moi j'ai eu la chance, dès que j'ai acheté la maison à Valkyde, avant, dans le 2006, Valkyde c'était la ville de Haugilag. Les communes de Haugilag, c'était les plus démunis, les plus déprivés de tous les Judais-Sibio. Après, il y a depuis quelques temps, les villages étaient complètement abandonnés. Hein. Après, depuis quelques temps, ça c'est le troisième mandat du maire Nico Lazar, qui est un visionnaire, je dois le remercier, parce qu'il est en train de changer vraiment les villages. Il a créé, depuis qu'il est maire, il a rénové l'école, il a fait la deuxième école smart de Roumanie et la première dans un village défavorisé. Il a rénové la Gradinitsa, il est en train de terminer maintenant, les caminos culturels, il a rénové les dispensaires publics. Avant, on n'avait pas les médecins. Maintenant, c'est vrai qu'il y a à moitié journée par semaine, mais quand même pour les personnes âgées, ils ne doivent plus faire kilomètres pour y arriver. Il a amené l'illumination publique, il est en train d'amener l'eau. La canalisation et les gaz.
Ça, c'est où, ça?
À Valkyde, grâce à la municipalité de Haugilag. Parce que Valkyde, c'est un village qui tient de Haugilag.
D'accord. Mm-hmm.
Et lui, s'est inventé le festival aux tuberoses, alors. Depuis cette année, c'était, si je ne me trompe pas, la 4e ou la 5e édition, parce que la commune de Haugilag était connue, les Saxons, là, ils cultivaient la tuberose, qui c'est une fleur particulière.
Ouais.
Et bon, il y a différentes légendes, mais Nico Lazar, cette mère-là, il a compris qu'effectivement les tuberoses de Haugilag peuvent devenir un brand. Et il a construit un brand sur ça. Aujourd'hui, si tu arrives pendant l'été dans la commune de Haugilag, avant il y avait quelques producteurs, aujourd'hui presque tout le monde fait des tuberoses. Ils ont déposé les dossiers à Bruxelles pour faire que la tuberose de Haugilag soit reconnue comme fleur protégée au niveau européen, et peut-être ils vont réussir. Ils ont créé une coopérative, une association qui travaille la tuberose pour faire des huiles essentielles, des crèmes. Il y a des autorités publiques dans ce moment, quelqu'un qui est vraiment un visionnaire, qui a compris quel est le potentiel de la région. Mmh. Et ces gens-là, il faut les soutenir, parce que c'est eux qui changent le contexte.
Et Franco Luizio, une dernière question. On sent que vous êtes très attaché à la Roumanie et vous avez fait beaucoup pour ce pays déjà et vous continuez. Vous êtes originaire de Calabre, une très belle région en Italie qui elle-même, je suppose, a des endroits qui sont, enfin vous allez me dire si je me trompe, mais un peu désertés. C'est quand même, c'est la région donc au sud-ouest donc qui touche la Sardaigne hein, de l'Italie.
Non, la Sicile.
La Sicile, pardon. Oui, pardon. Oui. Merci. Et donc, là-bas aussi, des fois, vous vous dites, il y a peut-être des choses à faire ou...
La Calabre, oui, c'est une région comme la Transilvanie. Évidemment, ils ont une histoire complètement différente. Et c'est quand même une région fantastique. C'est pas parce que je viens de là, mais c'est vraiment une région fantastique. J'ai vu tout le monde aller visiter parce que là...
Vous y retournez une fois par an, à peu près?
Oui, avant les Covid, après que j'ai ouvert la guest house en Transylvanie, j'ai pas vraiment le temps pendant l'été d'y aller. Parce qu'une caractéristique de ce type de tourisme, c'est le fait que les gens, ils recherchent beaucoup les rapports individuels.
Il faut que vous soyez là.
Il faut que tu sois là. Et la Calabre, c'est une région fantastique il a certaines caractéristiques en commun comme la Transylvanie, par exemple la nature, la culture. Je peux dire que non, bon, on a une culture un peu plus vieille à partir de Grèce, de la Magna Grecia, etc. Et c'est une région qui malheureusement souffre de toute l'histoire italienne et des dynamiques aussi locales. C'est une région quand même qui est en train effectivement de se populariser, de populaire, comment on dit,
bon, de dépeupler.
Parce que généralement, moi je viens d'un petit village qui est à 500 mètres de hauteur, à 4 km de la mer. On est complètement dans les forêts, mais devant, on a la mer Ionio. C'est un paradis, quoi. Le problème, c'est que les villages, pendant l'hiver, il y a autour de 50 personnes, qui sont des vieux personnes. Généralement, il y a un proverbe chez nous qui dit « Chaque vieux qui meurt, il y a une maison qui ferme ». Pour dire qu'il n'y a que des vieux personnes qui sont restées là. Parce que c'est la côte qui se développe. Les villages à l'intérieur sont abandonnés. Ouais. Et serait trop long d'expliquer pourquoi les potentiels qui ont ce type de région est difficile à se développer, parce que ça tient vraiment des différents facteurs politiques, sociologiques et autres.
Ouais. Qui sont particuliers à cette région. D'accord. Franco Aluzio, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Bonne chance dans vos activités à Valkid. Donc, d'ailleurs, une information, si on veut en savoir un peu plus sur votre guest house sur Internet, il faut aller où?
On n'a pas un site, on va le construire maintenant.
Guest house Valkid, c'est bon.
Oui, Valkid hein. Guest house, vous le trouvez sur Google,
Franco Aluzio Valkid,
c'est bon. Vous trouvez. Et à partir de l'année prochaine, à partir de printemps prochain, on va voir aussi un site internet, mais généralement, qui fait ce type de tourisme ne va pas sur les sites. Ils te trouvent autrement.
D'accord. Très bien, merci.
Merci à vous.
Merci à vous. Chers auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon week-end. Week-end Placoute. Au revoir.
Le micro du soir, Aïcha RFI.